Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Vraiment, avec trois points d'interrogation, la deuxième édition de cette quinzaine photographique à Bourg-en-Bresse est en ce moment. Gilles Garrigos, l'un des organisateurs de la Biennale et des artistes, sont nos invités.
Du sport pour faciliter l'intégration, c'est la mission de l'association Dalire, reportage.
Le plan vélo, le 40e festival du film d'animation pour la jeunesse, c'est tout de suite dans l'actu en bref.
Bourg en bref.
L'Ain quitte la liste des départements où le virus circule activement.
Il y a environ 38 personnes contaminées par le Covid-19 pour 100 000 habitants. Et c'est ce qu'on appelle donc le taux d'incidence. La moyenne nationale est de 43 cas. Et dans l'Ain, depuis plus de 5 jours, ce taux reste inférieur au seuil fixé par le gouvernement. C'est donc une bonne nouvelle pour les élèves d'école primaire. Depuis ce 18 octobre, ils peuvent poser le masque. Les jauges d'accueil du public debout augmentent aussi. Elles passent à 75% de la capacité d'accueil pour les salles de spectacle, les discothèques et les salles de sport. Et pour rappel, depuis le 15 octobre, les tests PCR et antigéniques sont payants pour les particuliers qui veulent faire un pass sanitaire.
La mairie de Bourg-en-Bresse présente son plan vélo et une e-consultation.
À l'issue d'un tour à vélo en ville, la municipalité a dévoilé un plan en trois axes. Poursuivre l'aménagement du réseau cyclable, aider les particuliers à acquérir un vélo et réaliser un guide des bonnes pratiques pour une meilleure cohabitation entre tous les modes de transport. Benoît Février est conseiller à la mairie de Bourg-en-Bresse.
L'idée, c'est d'avoir des aménagements à différentes échelles et à différentes pour différents objectifs. Donc le cheminement pour aller au travail, le cheminement du week-end, le cheminement pour faire ses courses, mais que tout soit imbriqué et fonctionnel. Plusieurs aménagements sont prévus, notamment sur les grands axes structurants de la ville, sur les grands boulevards, pour vraiment permettre à se déplacer, on va dire, à travers la ville de façon rapide et qu'on soit, on va dire, en concurrence avec la voiture, qu'on se dise bah, maintenant je peux prendre la voiture sur des grandes distances pour traverser la ville et se rendre sur des commerces, sur des écoles, sur des collèges, de façon rapide aussi. Il y a un axe important qui va être aménagé, c'est celui qui va partir de la gare en direction du carrefour de Brou, et qui va rejoindre ensuite Interexpo. Donc ça, c'est le on va dire, depuis l'avenue Sémard, Jules Ferry, Valéry, et jusqu'au carrefour de Brou.
En tout, 20 km de voies devraient être aménagées pour les vélos d'ici 2025. Et pour prendre en compte l'avis de la population, la ville s'est basée sur les résultats du baromètre des villes cyclables de 2019, où Bourg avait terminé deuxième dans la catégorie « ville entre 20 000 et 50 000 habitants ». Les participants à cette consultation en ligne peuvent pointer les axes dangereux, notamment. Et pour le baromètre 2021, il est encore possible de participer. C'est jusqu'au 30 novembre et c'est sur www.baromètre.paris. parlons-vélo.fr. Et la mairie de Bourg lance aussi sa propre consultation en ligne. Elle ouvre ce 20 octobre.
Finalement, le plan vélo, on l'a travaillé avec les services, on l'a travaillé en commission cycle. Donc on a déjà des retours de la commission cycle, des usagers, mais on va dire des usagers plutôt aguerris, plutôt experts. L'idée, c'est d'élargir ce retour d'information qu'on peut avoir et de confirmer certains axes, certains aménagements qu'on peut faire. L'idée, c'est de comprendre quels sont les usagers actuels dans Bourg-en-Bresse, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quels sont les points sensibles pour eux, qu'est-ce qu'il y a comme dysfonctionnement par rapport à certains carrefours, et de voir vraiment effectivement qu'est-ce qui, au quotidien, peut les arranger pour se remettre en selle, entre guillemets.
Comment inciter donc ceux qui n'en prennent pas le vélo à prendre le vélo ?
Eh bien, en fait, pour se remettre à vélo, en fait, on s'aperçoit qu'il faut plusieurs choses. Il faut effectivement avoir des aménagements sur lesquels on est tenté de retourner faire du vélo. Il faut avoir un vélo. Donc, c'est là qu'on va travailler sur une prime à l'achat de vélo. Il faut travailler aussi sur les bonnes pratiques. Donc là, on va essayer, donc on va encourager, on va continuer aussi à former les enfants à faire du vélo. Donc c'est tout un panel qui va être un élément déclencheur petit à petit. Et finalement, on espère que ça déclenche vraiment une population, une partie de la population à se remettre à faire du vélo et qu'on ait une espèce d'effet boule de neige.
Pour participer à la consultation en ligne de la mairie sur les pistes cyclables, c'est du 20 octobre au 10 novembre. Et pour aider encore les Burgiens à utiliser un vélo, la mairie propose une aide financière pour tout achat à partir du 20 octobre et jusqu'à fin 2022. Ça concerne les vélos adultes, neufs ou d'occasion. L'aide est de 30% maximum de la somme du vélo. Elle est plafonnée à 100 € pour un vélo standard, 300 € pour un vélo à assistance électrique et 400 € pour un vélo cargo.
Une journée dédiée à l'avenir de la forêt.
On compte 200 000 hectares de forêt dans l'Ain. Pour préserver cette ressource, le département de l'Ain organise ses premières assises du bois et de la forêt ce jeudi à Nantua. Une journée où les acteurs du secteur vont échanger sur les enjeux pour préserver notre forêt. Jean de Guéry, le président du département.
Ce que j'attends des assises de la forêt, c'est une prise de conscience collective. Aujourd'hui, notre forêt est malade, force est de constater lorsque vous levez les yeux, et notamment, je le vois tous les jours dans le Haut-Bugey, hein, vu que j'habite là-bas. Et donc, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut à la fois sauver notre forêt, aider les propriétaires forestiers privés ou publics à sortir de cette crise, et puis surtout valoriser notre propre production auprès de nos propres transformateurs, et bien sûr aider toute cette filière bois qui est très importante, qui concerne plusieurs milliers d'emplois dans le département. Je rappelle que le département possède les plus grosses scieries de France en son sein, c'est important aussi, hein. Nous avons la chance de les avoir ici, de gros transformateurs, nous avons une école du bois à Cormaranche-en-Bugey, nous avons un pôle de compétitivité qui s'appelle Xylo Futur également dans l'Ain, et je pense qu'avec toutes ces armes-là, eh bien, ils nous font prendre conscience et faire des propositions pour lancer de nouvelles actions par la suite.
Ça va se passer comment ?
Il y aura d'abord une première réunion le 21 octobre avec les professionnels du bois, public et privé, bien évidemment, de vrais échanges, de vraies réflexions. Et ensuite, nous travaillerons avec nos services au département pour lancer des propositions quelques mois après toutes avoir récolté toutes ces informations.
Comment entretenir la forêt, éviter la propagation des maladies, penser le réchauffement climatique ou encore comment assurer la pérennité des entreprises du bois. Tous ces thèmes seront sur la table. Les échanges permettront de compléter le livre blanc de la filière forêt-bois.
Parler du deuil autour d'un café.
Le deuxième café deuil a lieu ce samedi au centre social de Saint-Denis-les-Bourgs, le pôle pyramide. C'est organisé par l'association Couple et Famille de l'Ain. On écoute Lauriane et Sylvie, toutes les deux animatrices dans l'association et au café deuil.
En fait, le but des cafés deuil, c'est surtout de parler du deuil, puisque c'est un sujet qui est encore très très tabou dans nos sociétés et pourtant en fait tout le monde le vit à un moment donné. C'est même, la mort fait partie de la vie au final, et du coup vraiment le but de ces cafés deuil, c'est de casser ce tabou et de venir discuter simplement du deuil et de rencontrer des personnes en fait qui vivent aussi cela, ou simplement des personnes aussi qui ont juste des questions. En fait, on n'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin qu'on soit dans un deuil pour venir au café deuil, c'est juste s'intéresser au sujet et puis venir partager ça tous ensemble autour d'une boisson chaude, des petits biscuits, voilà.
Et c'est vrai que le temps passe très très vite quand on a ces personnes, les échanges sont toujours faits de bienveillance, hein, de bienveillance, de respect. Et c'est assez chaleureux en fait.
Donc peut-être Lauriane, si vous avez envie d'en dire un mot, vous avez donc participé à la création de ce café deuil. Vous avez connu un deuil assez récent. Est-ce que ça vous a apporté aussi de participer au café deuil ?
Bien sûr, ça m'apporte énormément. De toute façon, en fait, même en tant que animateur, animatrice des cafés deuil, on rencontre au final des personnes avec des histoires de vie qui sont très très fortes, et c'est enrichissant, c'est très enrichissant. Et puis avant ces cafés deuil, on a aussi suivi une formation accompagnement du deuil avec l'association Empreinte. Donc on est allé sur Paris, on s'est formé aussi à l'accompagnement du deuil. Voilà, voir les étapes du deuil, tout ça. Donc même, enfin, j'ai pu faire le rapprochement entre ce que j'avais vécu, ce que je vis encore, puisqu'en fait, au final, ça s'étire vraiment dans le temps. Et puis, au final, en fait, plus la théorie du deuil, enfin, vraiment avec voilà, des concepts, etc., faire le rapprochement. Donc, de toute façon, enfin, c'est que bénéfique, quoi. Et puis après, en plus, le café deuil, c'est vraiment une porte d'entrée pour nous, puisque le but, c'est que ces cafés deuil servent, en fait, de moments d'échange avec les personnes qui viennent à ces cafés deuil pour voir ce pour pouvoir détecter leurs besoins et voir ensuite ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on crée des groupes de parole? Est-ce qu'on crée des rencontres sur des thématiques précises avec des interventions peut-être d'autres partenaires, etc. En fait, c'est notre souhait, c'est aussi de pouvoir récolter les besoins du territoire et des personnes pour ensuite évoluer dans ce sens-là, en fait.
Et pour participer au Café Deuil, c'est ce samedi 23 octobre au Pôle Pyramide de Saint-Denis-les-Bourgs à 10h.
40e édition pour le Festival du film d'animation pour la jeunesse.
C'est du 23 au 27 octobre à Bourg-en-Bresse. Et pour fêter cette édition anniversaire, un village spécial est installé à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse. Stéphane Laurencin, directeur du festival.
On va retrouver plusieurs choses, des masterclass, donc des rencontres avec des professionnels qui vont nous parler de leur métier, mais aussi donc échanger avec le public sur comment on monte un film d'animation, comment on réalise un film d'animation, comment on passe d'une idée, d'un dessin à un film. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger aussi pour le public avec des professionnels. On aura des ateliers qui sont gratuits, donc sur le stop motion, donc l'animation marionnette pour les petits. On a des ateliers de dessin animé également, et on a des ateliers également sur le mash-up qui permet de faire une initiation justement au montage. Dans ce village, on va également retrouver donc des expositions, des animations. Donc ça, tout ça, c'est vraiment à la MCC, c'est la nouveauté de cette 40e édition, avec également un espace de réalité virtuelle. Donc c'est grâce à un casque qu'on va pouvoir avoir donc des courts-métrages qui ont été spécialement conçus donc pour cette technique-là. Donc ça permet aux spectateurs d'être vraiment acteurs, et donc c'est ce côté immersif de la réalité virtuelle qu'on va proposer donc également sur ce village.
Et avoir aussi dans ce village une exposition. L'équipe du festival a sorti de son grenier des archives et des appareils. Éric Poncet, l'un des créateurs et organisateurs du festival depuis 1982.
On s'est aperçu au fur et à mesure des ateliers qu'on anime tout au long de l'année que les gens les plus jeunes, et pas forcément que les enfants, n'ont jamais vu une bande de film, une bobine de 35 mm... des caméras Super 8, enfin voilà, du matériel un petit peu obsolète forcément maintenant avec le numérique. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de montrer tout ce matériel avec lequel nous, on a commencé, et puis qui a donc évolué jusqu'au numérique. Parallèlement à ça, on a aussi réuni quelques jouets d'optique. Les jouets d'optique, ce sont tous ces jouets qui ont été inventés dans les années 1800, qui ont permis de comprendre le phénomène de la persistance rétinienne, donc de la mémoire de l'œil, et donc ce qui a conduit à la création du cinéma. Alors, particulièrement, nous aurons cette année en exposition un praxinoscope.
Du côté de la programmation, il y aura du court, du long métrage, bien sûr, en majorité pour les enfants et les ados.
Et pour l'occasion, des classiques de l'animation seront projetés, comme Le Château ambulant de Miyazaki et Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Des séances sont aussi prévues pour les ados et les adultes. Au Vox, vous pourrez voir le film Joseph du réalisateur Aurel sur la dictature franquiste en présence du scénariste du film. À la MCC, il y aura Les Hirondelles de Kaboul, un film sur la capitale afghane occupée par les talibans à l'été 1998.
Des projections et des votes, 14 courts-métrages sont en compétition.
Le jury jeune, composé de collégiens, dévoilera son palmarès à la clôture du festival. Le prix du public sera annoncé en même temps. Depuis la création du festival en 1982, une centaine de films ont reçu un prix ou une mention. Un festival créé pour et par les enfants, comme l'explique Jacques Genin, le président de l'association Festival du film d'animation pour la jeunesse.
On avait créé un festival pour la jeunesse sous chapiteau au champ de foire et on avait inclus des expositions, des ateliers pour les enfants et il y avait du film d'animation. C'est là qu'on a dit, mais pourquoi ne pas en faire un festival spécifique. Donc il y avait trois associations, la Fédération des œuvres laïques, les Francas et le comité de coordination des centres de loisirs, dont la MJC, qui se sont associés pour créer ça. Donc ce n'est pas des associations de cinéma, c'est des associations d'éducation populaire qui voulaient faire passer leurs valeurs à travers le film d'animation que les enfants pouvaient regarder, mais surtout qu'ils pouvaient créer. Et c'était ça notre objectif premier.
Comment s'est lancé ensuite le studio ?
Donc, dès la première édition en 82, nous avions Jacques-Jérémy Girard, qui sera présent cette année encore, qui a circulé dans les écoles avec des bandes amorces de films toutes noires sur lesquelles les enfants pouvaient gratter leurs dessins, et ce qui donnait aussi déjà une illusion du mouvement. Et quand on reprend dans les années suivantes, on retrouvera chaque fois des ateliers, des stages. Je me souviens surtout de l'année 1995, c'est-à-dire ce qui correspondait aux 100 ans du cinéma. Et cette année-là, on avait fait une opération qui s'appelait 100 enfants, un film. Et donc, pendant le festival, 100 enfants sont venus réaliser un film. Après, on s'est développé. Du coup, le festival fonctionnant très bien, on a pu créer notre propre studio, ce qui nous a permis à ce moment-là de fonctionner toute l'année, d'intervenir beaucoup dans les écoles et les centres de loisirs. Et donc, ce studio fonctionne depuis 2001. Nous avons régulièrement des demandes et on a réalisé environ 200 films en 20 ans. Et on espère bien continuer. Enfin, on a déjà des demandes pour l'année qui vient.
La 40e édition du Festival du film d'animation pour la jeunesse, c'est du 23 au 27 octobre à Bourg-en-Bresse. Le Pass Festival est déjà en vente au studio de l'association 13 rue du Stand et une billetterie sera aussi installée à la MCC pendant toute la durée du festival. Retrouvez toute la programmation sur festivalbourg.com.
Ce vendredi, une conférence sur les coulisses des médias.
Et c'est Radio B qui intervient au tiers-lieu L'Écrin, un moment d'échange autour des médias et du journalisme, les lignes éditoriales, la circulation des informations, le choix des sujets, le fonctionnement des médias n'aura presque plus de secret pour vous. C'est gratuit et c'est au tiers-lieu L'Écrin à Étré et c'est ce vendredi à 20h.
Les produits bio à l'honneur au marché couvert.
Et c'est la 11e édition de la Foire bio des Pays de l'Ain. C'est l'association de développement de l'agriculture biologique qui l'organise. De nombreux artisans et associations seront sur place, mais pas de restauration cette année. C'est de 9h à 17h ce dimanche au marché couvert de Bourg-en-Bresse.
L'invité de Radio B.
Vraiment suivi de 3 points d'interrogation, c'est jusqu'au 3 novembre. 15 jours pour voir des expositions photos dans plusieurs lieux de Bourg-en-Bresse, H2M, la Tannerie ou encore la Chapelle Lalande. Créée fin 2018, cette biennale photographique devait donc revenir en 2020, mais pandémie oblige, elle a été reportée. Gilles Garrigos, bonjour.
Bonjour.
Votre nom est associé à la Tannerie, scène de musique burgienne, vous en êtes le directeur, mais aujourd'hui vous venez comme membre de l'association Dans ta chambre, l'organisatrice de cette quinzaine photographique. À vos côtés, Roxana, collégienne, en stage à la radio cette semaine. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Garrigos, c'est une toute jeune biennale, je le rappelle, créée en 2018. Pourquoi vraiment avec 3 points d'interrogation ?
L'idée, c'était de se questionner, en fait, d'être dans le questionnement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les 3 points d'interrogation qui font aussi un effet graphique qui est important dans la dimension de la communication autour de la biennale. Et puis l'idée, c'était vraiment d'être aussi dans le questionnement sur est-ce qu'on en est vraiment là ? Est-ce que les choses sont telles qu'on nous les présente ? Est-ce que les choses vont aussi mal que ça ? Et est-ce qu'il n'y a pas de solution, d'alternative, de nouvelles perspectives à imaginer pour sortir éventuellement de l'ornière ?
La première édition en 2018 avait pour thème « Ici, je vis ». Elle s'intéressait aux lieux d'habitation, l'appartenance à un territoire. Pour cette deuxième édition, vous annoncez un fil rouge aquatique. Expliquez-nous.
Ben oui, comme l'idée de la biennale est partie de l'envie de traiter de sujets environnementaux ou sociaux, les deux mêlés parfois, puisque c'est souvent quand même très imbriqué. On est parti sur une thématique qui soit vraiment une thématique assez profonde sur ces questions d'environnement et de réalité sociale. Et l'eau, ça nous a paru être une évidence, sachant que ça permettait beaucoup de possibilités en termes de travail sur l'image, et qu'on savait qu'il y avait beaucoup de travaux qui avaient été faits sur ces questions-là. Donc voilà, ça nous a paru une très bonne thématique pour cette édition.
Des sujets sur l'environnement, le social, ces sujets vous ont-ils toujours intéressés ?
Alors oui, ils nous ont toujours intéressés. On est des personnes qui sont très sensibles à toutes ces questions d'environnement et de problèmes d'inégalité sociale, pour faire un petit peu plus précis sur la question du social. Et autant il y a des gens dans l'équipe qui sont des gens qui sont même très militants depuis très longtemps, autant il y en a d'autres qui sont plus, sans être militants, sensibilisés à certains sujets et qui ont envie de les traiter et puis d'essayer d'apporter leur pierre à l'édifice dans la réflexion. Donc c'est des choses qui nous touchaient vraiment depuis très longtemps, et avec l'idée de créer quelque chose autour de l'image, ben, il y avait cette idée de ramener ces sujets-là sur la table et d'être un endroit justement où on puisse réfléchir et s'interroger sur certaines thématiques.
Dans cette exposition, on retrouve notamment le photographe italien Marco Dardanello, invité à l'ouverture de la Biennale vendredi dernier. Son projet, documenter et réfléchir aux impacts du dérèglement climatique. Sa série de photos Water Tour se tourne vers le Moyen-Orient. Elle est à retrouver à H2M, l'espace d'art contemporain burgien. Nous avons rencontré Marco Dardanello à l'inauguration de Vraiment, devant la chapelle du lycée Lalande.
Et la mostra qui est qui exposée au Festival de Bourg-en-Bresse est intitolée Water Tour. Est un projet.
L'expo qui est présentée au Festival Vraiment de Bourg-en-Bresse est née entre 2017 et 2018. Ça s'appelle Water Tour. Et le but, c'est celui de montrer la carence de ressources hydriques dans la vallée du Jourdain, la mer morte entre Israël et la Palestine. La
carenza di acqua, appunto, in Medio Oriente.
Comment est venue cette idée ?
Questo progetto qui esposto è
L'expo que vous verrez ici, donc Water Tour, c'est le deuxième volet d'une série qu'il a commencé en 2015, qui s'intitule donc Le tourisme de masse à l'ère du changement climatique, et qui a donc comme but celui de documenter comment le secteur touristique réagit ou ne réagit pas au changement climatique.
Ou non sta reagendo in questo caso agli effetti del cambiamento climatico. In questa mostra il racconto ruota intorno.
Le volet Water Tour tourne autour donc l'évaporation de la mer morte, donc la baisse du niveau d'eau, et surtout la perte de la part de l'industrie touristique de ces paysages d'une beauté inégalable. Et donc comment exploiter cette perte?
Per colpa del cambiamento climatico, ma che non si sta facendo nulla.
Comment vous recevez d'être accueilli ici à Bourg-en-Bresse, donc une petite ville, pour montrer cette exposition?
Sono molto felice perché io vengo da una piccola città.
Déjà, je suis très honorée d'exposer ici à Bourg-en-Bresse. C'est une petite ville, c'est vrai, mais moi aussi, je viens d'une petite ville en Italie. Et je considère que c'est surtout dans ces villes-là qu'on peut le mieux exprimer la richesse culturelle, parce qu'il y a une ambiance plus détendue, il y a plus de relax pour la recevoir.
Si riescono a creare fermenti culturali e artistici perché c'è un'atmosfera semplicemente più rilassata.
L'exposition Water Tour de Marco Dardanello, c'est à H2M. Gilles Garrigos, comment avez-vous découvert Marco Dardanello ?
On l'a découvert tout bêtement via des magazines, puisque c'est son travail a été beaucoup montré dans la presse, soit sous la forme de reportages, soit vraiment sous la forme de plus documents, et également au Festival de la Gacilly. Puisque donc un des plus gros festivals photographiques en France, voire en Europe, qui se passe donc dans un village en Bretagne, le village de Yves Rocher. Voilà, c'est du coup Yves Rocher qui finance quasiment intégralement le festival. Et c'est devenu un rendez-vous incontournable. Donc on l'a aussi découvert là-bas, puisqu'il y a des gens de l'équipe qui vont chaque année en fait à la Gacilly pour justement découvrir des travaux et des artistes qu'on pourra ensuite ramener sur Bourg pour la Biennale.
Pourquoi avoir choisi cette série de photos sur le tourisme et le Moyen-Orient ?
Oui, ça illustrait complètement les thématiques qu'on souhaitait traiter. Donc l'eau, qui est vraiment source de vie et une nécessité absolue pour tout le monde sur la planète. Et puis la façon dont les ressources en eau sont traitées et exploitées à certains endroits, voire sur une grande partie, malheureusement, de la planète. Et notamment pour des buts qui sont quand même pas très nobles. Hein, faire du tourisme de masse dans des endroits où il y a des problématiques d'eau et faire ce tourisme, générer ce tourisme de masse sur la base justement d'un usage de l'eau, c'est quand même assez fou. Et voilà, voir qu'en fait l'industrie du tourisme, comme tout un tas d'autres industries, essaye de s'adapter aux problématiques climatiques, mais en aggravant le problème plutôt qu'en essayant de le résoudre. Bon, voilà, ça montre de façon assez symptomatique les problèmes auxquels on se confronte.
Autre artiste présente pour l'inauguration, Florence Levillain. Son travail se concentre sur l'humain et le quotidien que nous ne voyons plus. Bain public, c'est le nom de son exposition, on l'écoute.
Votre exposition, donc, c'est sur les bains publics. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Alors, j'ai choisi ce sujet parce que mon travail depuis très longtemps, mon travail personnel, tourne autour de Planète Mars au bout de votre rue. C'est l'intitulé que je lui ai donné il y a très longtemps déjà. Et en fait, l'idée, c'est de faire découvrir aux gens des univers qui leur sont très proches, qu'ils croient connaître et finalement qu'ils ne connaissent pas du tout. Et par exemple, les Parisiens à Paris, mais c'est vrai de plein de villes, ne savent pas qu'il y a 17 bains publics qui fonctionnent et que ça représente 1 million de douches par an.
Donc les bains publics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le concept ? Comment ça marche ?
Alors c'est un bain gratuit qui est accessible à n'importe qui, sans signature, sans papier, et on a le droit à 20 minutes d'eau chaude gratuitement.
Et donc pourquoi ce sujet vous a intéressé ? Comment vous l'avez trouvé ?
Alors je l'ai trouvé parce que en fait il y en avait un juste à côté de l'école de mes filles et je me suis dit mais ça fait des années que je passe devant et je suis jamais allée voir. Donc j'ai poussé la porte. En poussant la porte, je me suis rendu compte que ça concernait une population très étendue et une précarité qui est bien plus importante que ce qu'on imagine. Donc j'ai trouvé le sujet très intéressant parce que j'y ai croisé à la fois des mamans seules, des jeunes travailleurs pauvres, des travailleurs pauvres tout court, des plus âgés mais sans salle de bain, enfin bref, un panel d'une population incroyable et je me suis dit mais il faut vraiment qu'on connaisse ces gens et qu'on puisse discuter avec eux les yeux dans les yeux, d'où l'idée de les photographier et aussi de les interviewer, etc.
Et donc on voit donc vos photos, c'est surtout des portraits. Donc assez intime un peu. Comment vous avez réussi à avoir cette intimité avec des inconnus ?
Alors justement, le processus, je l'ai cherché pendant longtemps parce que je voulais justement cette intimité. Je voulais qu'on soit à une distance de discussion un peu comme on est, vous et moi, là en ce moment, c'est-à-dire relativement proche, qui ne permet pas tellement un appareil photo entre nous deux. Et donc j'ai inventé un système avec un miroir sans teint. Donc j'allais voir chacune des personnes qui sortaient des douches. Bon, déjà j'ai eu l'autorisation de le faire, hein, de la mairie de Paris. Ça a été très long, assez exceptionnel. Ensuite, donc j'allais voir chacune des personnes. 80% à peu près des personnes que j'ai rencontrées m'ont dit non. 20% à peu près m'ont dit oui, et c'est 75 personnes quand même en totalité photographiées. Donc j'ai décidé ensuite de les amener dans un espace qui était un peu comme un studio avec beaucoup d'éclairage, un miroir sans teint, et ils posaient devant moi tout en sachant qu'ils posaient. Et on avait une discussion comme ça, et petit à petit ils retrouvaient en se voyant l'intimité et la maîtrise de leur image. Et donc d'où cette impression un petit peu d'être dans leur univers, quoi.
Est-ce que vous pouvez donc choisir un des portraits et nous dire un peu l'histoire de la personne qu'il y avait derrière ?
Je vais vous choisir le portrait qu'il y a dans le programme, Malika. Alors ce portrait, c'est une femme d'un certain âge avec les cheveux blancs qui pose devant les bains puisque les bains ont toujours la même architecture. C'est un couloir avec des portes fermées puisque ce sont des cabines qui sont fermées du sol au plafond. Donc on voit tout l'alignement des portes derrière, hein, des portes rouges. Malika devant avec ses cheveux blancs assez rayonnante et complètement dans la perspective de ce couloir, très centrale et très fière, légèrement tournée sur le côté et avec la main sur le cœur. Malika, elle était femme de ménage d'immeuble, donc elle était employée par une dame qui avait tout un immeuble à Paris et qui louait les appartements, et elle nettoyait les parties communes, etc. Et à la mort de cette propriétaire, elle a légué à Malika une petite chambre de bonne puisque Malika était à la rue. cette chambre de bonne très vétuste et vieillissant assez mal, Malika n'ayant pas les moyens de la réparer, elle est allée au bain public. Et Malika, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux qui représente un petit peu tout ce passage d'un ancien Paris à un nouveau Paris, de personnes qui travaillent mais qui n'ont pas les moyens d'avoir une salle de bain. Donc elle est assez symbolique de toute cette série. En fait, elle représente pas mal des choses dont j'ai voulu parler.
L'exposition Bain public de Florence Levinin est à retrouver à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse. Gilles Garrigos, quelques mots sur le choix de Florence Levinin ?
Eh bien, elle est exactement à un autre endroit qui nous paraît hyper important. C'est la liaison justement que fait un artiste entre de l'esthétique, un rendu visuel fort et un vrai fond. Une vraie envie de parler de quelque chose, de parler et notamment de problématiques. Et là, c'est vraiment du social, c'est de l'humain. Et se croiser entre des problématiques sociales, environnementales, puisque là, on parle aussi de l'eau et de l'accès à l'eau et de qui gère l'accès à l'eau, en fait, dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes, puisque à Bourg, il y a une régie des eaux qui est municipale, mais en même temps, il n'y a plus de bain public à Bourg-en-Bresse, quoi. Donc ça se questionne aussi. Donc voilà, être à cet endroit-là où on questionne des choses, on montre une réalité et on laisse les gens ensuite, après, réfléchir à ça et en espérant qu'il y ait des prises de conscience et des gens qui fassent des petits cheminements dans leur tête sur certaines thématiques et que ça les amène à réfléchir un petit peu plus loin, de façon un peu plus lointaine, à la marche du monde.
Donc il y a l'impact du dérèglement climatique avec l'exposition de Marco Zorzanello, le quotidien au bain public, on vient d'en parler avec Florence Levinin, peut-être de présenter peut-être deux, trois autres expositions un petit peu coup de cœur qui seront visibles pendant la quinzaine vraiment.
Alors une des grosses expositions, c'est celle d'Anita Conti, qui est donc à la Chapelle Lalande. Donc là, c'est une photographe et océanographe. Et en fait, c'est le personnage, déjà à la base, qui nous a énormément intéressés. C'est un personnage qui n'est pas si connu que ça, alors que c'est une personne très, très importante. Et quand on commence à creuser un petit peu et se renseigner sur sa vie et sur son œuvre, tout ce qu'elle a fait, cette Anita Conti, on se rend compte que c'est une personne très, très importante à plein de niveaux. Donc c'était pour nous assez important de montrer son travail. C'était aussi une façon de montrer de la photographie un peu plus ancienne, parce qu'on aime bien pouvoir présenter aussi cette dimension-là dans vraiment, pas être que dans la photographie contemporaine, mais montrer aussi qu'il y a une histoire et qu'il y a des choses qui se sont déjà passées bien avant. Et là, en plus, elle, il se trouve que elle a fait aussi, elle a été une lanceuse d'alerte, on va dire, sur la problématique de la surpêche à une époque dans les années 50 où la thématique n'était pas du tout encore à l'ordre du jour. Mais elle, parce qu'elle avait travaillé dessus, parce qu'elle avait aussi un peu aidé à la pêche industrielle, elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait des travers et des choses qui allaient poser problème assez rapidement. Et du coup, elle avait déjà alerté tout le monde dès cette époque-là.
Avec ces expositions photos, vous interrogez les visiteurs sur l'avenir de l'eau. Des solutions sont-elles proposées ?
À la base, c'est bien ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire montrer une réalité et du coup des vrais problèmes qui se posent, et essayer d'esquisser des pistes ou montrer un petit peu qu'est-ce qui se fait à certains endroits pour pallier à ces problèmes-là. Malheureusement, on avait des artistes qui pouvaient venir nous présenter des travaux un peu sur cette idée-là d'une vie ailleurs ou de choses qui évoluent. Sauf que on avait un photographe qui s'appelle Charles Delcourt notamment, et dont l'expo, en fait, avec les histoires de Covid, n'a pas pu être disponible en fait sur notre temps de report. Et en même temps, on a aussi eu des problématiques budgétaires qui sont aussi liées au Covid, parce que par exemple le mécénat a été très difficile à mettre en œuvre cette fois-ci, puisque les entreprises sont assez frileuses dans la période parce qu'elles ont peu de visibilité. Donc le budget plus les problématiques d'agenda de certains artistes ont fait que on n'a pas cette dimension-là. Mais voilà, ça manque, c'est vrai, c'est un des éléments qui manque. Comme manque également sur les problématiques, on voulait vraiment montrer des choses autour de la problématique des migrations et notamment la traversée des mers pour pouvoir échapper à un destin un peu funeste. Et là, on n'a pas pu le faire, là vraiment pour une question de budget. On a arbitré et finalement une expo qu'on voulait montrer, on n'a pas pu la prendre parce qu'on n'avait pas les moyens. Et puis la problématique aussi de la pollution. des océans, puisqu'il n'y a rien autour de cette problématique, et pourtant un truc super important quand on parle de l'eau. Et ben, même problème, hein, c'était aussi une expo qu'on avait préparée, mais qu'on n'a pas pu financer.
Gilles Garrigos, Roxana, merci.
Ben, merci à vous.
Gilles Garrigos, vous faites partie de Dans ta chambre, l'association organisatrice de Vraiment, avec trois points d'interrogation. Quinzaine photographique à Bourg-en-Bresse jusqu'au 3 novembre. Je le précise, ces expositions sont à voir gratuitement dans différents endroits de la ville. Le programme complet, c'est sur vraimentquinzainephoto.wordpress.com. Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
Des cours de sport pour l'inclusion, c'est ce que propose une association à Bourg-en-Bresse. Le DALIR promeut l'accès aux loisirs pour tous. Les participants, des réfugiés ou des jeunes en centre d'hébergement et de réinsertion, viennent découvrir tous les mercredis un nouveau sport. L'objectif, apprendre à s'adapter pour pouvoir rejoindre un club de sport ou une autre association. Nous avons suivi une séance et ce mercredi, c'était volley-ball.
Bonjour.
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 Ça va, Sotjagoul ?
Oui, ça va.
Avec elle aussi ?
Ça va.
Ça va, Fanny Raquin, je suis chargée d'accompagnement pour l'association DALIR. DALIR, c'est une association qui accompagne les personnes fragilisées vers la reprise d'une activité de loisir.
Quels sont les grands objectifs de votre association ?
De favoriser l'accès aux loisirs pour toutes les personnes qu'on accompagne, aussi bien pour les personnes qui ont des problèmes de santé ou des personnes en situation de handicap ou les personnes en réinsertion sociale. Mes missions sont d'accompagner les personnes vers cette reprise d'activité physique en accompagnant la personne individuellement. J'ai aussi des missions de rencontre au niveau des clubs qui accueillent ces personnes.
Allez, on y va, en trottinant tranquillement. Faites attention, c'est un revêtement, je vous dis, là, qui est... Attention, ça va vous
entraver. Aujourd'hui, on est dans un gymnase au CFA d'Even. Et aujourd'hui, j'anime une séance d'activité physique adaptée avec deux groupes de personnes. Ces personnes sont hébergées en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou en centre provisoire d'hébergement. Et du coup, l'idée, c'est de leur faire découvrir la pratique d'activité physique. Il y a un travailleur social qui est également présent sur ce temps de séance. L'idée, c'est de se servir de l'outil sport pour retravailler plusieurs choses sur ce temps de séance, notamment reprendre confiance en eux, aussi à intégrer les codes sociaux de la France, notamment arriver à l'heure, comprendre comment fonctionne un club. Il y a des vestiaires, on s'en sert, on arrive un petit peu en avance avant la séance. Du coup, tout ça est travaillé sur ce temps qu'on appelle phase 1 avant de pouvoir accompagner les personnes vers un club ou une association du territoire.
Et donc les différents profils, c'est quelle catégorie d'âge, filles, garçons ?
Alors du coup, sur cette séance, c'est le CHRS jeune, donc des jeunes de 18 à 25 ans. Filles ou garçons, on a quand même majoritairement des garçons. Et au centre provisoire d'hébergement, tout âge, là on a un jeune qui a entre 25 et 30 ans, puis on a aussi une dame qui est un petit peu plus âgée, qui a plus 40-50 ans. Donc je m'adapte après à chaque personne.
Alors bonjour, je me présente, Consoletti Julie, je suis conseillère en économie sociale et familiale et je travaille au sein du CHRS jeune de la sauvegarde de Perona. Alors nous accueillons des jeunes âgés entre 18 et 25 ans, des jeunes qui arrivent du 115, donc qui n'ont pas de lieu d'hébergement. Et nous les accompagnons dans la vie quotidienne et l'objectif c'est qu'ils réintègrent un logement et un emploi et tout ce qui peut être pour sortir de notre structure.
Et donc aujourd'hui, c'est quoi l'impact que ces cours de sport ont sur ces jeunes ?
L'impact essentiel, c'est que déjà, ça leur remet aussi dans le circuit du sport. Donc, et puis ça permet aussi de créer une cohésion de groupe plus facilement entre les jeunes. Certaines personnalités peuvent se montrer plus facilement, on peut voir certaines difficultés que certains jeunes peuvent avoir. Donc je trouve ça essentiel et puis ça permet aussi de travailler un autre lien avec les jeunes sur ces moments d'activité en dehors du cadre un peu professionnel de notre côté à nous.
Le ballon, il arrive en l'air au-dessus de la tête. On renvoie main haute. S'il arrive en bas, on va faire manchette. Okay. D'accord ? C'est en fonction de comment le ballon il arrive. S'il arrive en haut, hop. S'il arrive en bas, manchette.
Bonjour, je m'appelle Tafaro Haile, je suis éthiopien, très très bien à le sport.
Je m'appelle Sichagol, afghan, je suis afghan. Le sport, c'est bien le sport.
De Naven. Il y a des moments où on fait des sports que j'aime pas.
C'est quoi que t'aimes pas?
Le foot.
Et c'est quoi que t'aimes?
Ping-pong, volleyball, j'aime bien. Badminton, j'aime bien aussi. Après, il y en a plein d'autres. Après c'est, je suis plus du dessin, moi.
David, je suis colombien.
Ça t'apporte quoi de venir ici faire du sport?
Beaucoup, parce que j'aime le sport. Donc, et pour faire aussi un peu d'exercice, voilà. Je pense qu'après, je vais faire un sport, par exemple, basketball ou volleyball. Ou...
Toi, tu es content de venir ici tous les mercredis?
Oui, et je suis très content d'être ici. Et puis aussi de s'amuser avec tous. Et puis voilà.
La chance d'être petit, ça, quand même. Je n'ai même pas peur.
Les personnes que vous avez ici ce soir, qu'est-ce qu'elles veulent faire?
Madiou, il avait déjà fait du foot auparavant dans d'autres clubs et là, il est en train de prendre sa licence pour rentrer dans un club sur Saint-Denis-les-Bourgs. David, lui, ne savait pas trop quelle activité faire et quand on a fait du basket ensemble sur les séances, il était plutôt partant et du coup, là, on est en train de voir pour aussi qu'il intègre un club. Donovan, lui, c'est le dessin. Il veut faire dessin manga. Donc là, je suis en train de rechercher, mais c'est compliqué de trouver une activité qui répond à sa demande. Donc après, on adapte. Hein. Et Madame Bekele, elle souhaite faire des ateliers cuisine au centre social.
On peut dire que le sport, ça permet d'intégrer?
Ah bah complètement. Pour les personnes voilà, qui ne parlent pas beaucoup de français, c'est un bon moyen rien que de discuter sur les séances, de retenir certains mots, apprendre du vocabulaire sportif ou autre. Quand on fait par exemple l'échauffement articulaire, bah, on part de la nuque, la tête, les épaules, les bras. Donc c'est un travail sans être derrière un bureau et avec un cahier et un crayon. Voilà.
Donc ils apprennent la langue et à interagir.
Exactement, c'est vraiment la rencontre aussi intergénérationnelle aussi parce qu'il y a tous les âges. Donc c'est plutôt sympa.
C'est comme ça là, mon service à une main. Oui, alors mais... ça c'est le service cuillère. Ah, on vient taper avec
le service.
Oui, comme vous... ça, non?
Ou alors en l'air.
Oui.
Comme ça. Il y a deux façons de faire. Donovan, avec Daniel.
Allez. Et merci à l'association Dalir, à Fanny et aux participants pour leur accueil.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Roxana en stage à la radio cette semaine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Belle journée sur Radio B.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc, heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.